Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants, sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence. Mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années. Et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Charlène Schneider est une Alsacienne de cœur. Et même si elle est née à Thionville, en Moselle, c'est dans les quartiers de Strasbourg qu'elle a grandi. Sa carrière comme professeur des écoles a débuté en 2013. Enfant, elle s'imaginait en princesse, ou en Power Rangers, parce que c'était à peu près les seuls super-héros qui mettaient en scène des filles. Mais c'est dès l'âge de 8 ans que l'option enseignante est apparue, même si, à l'adolescence, elle rejetait cette possibilité. Charlène enseigne aujourd'hui à Givors, tout près de Lyon, et elle vit dans les monts du Lyonnais. Elle se définit elle-même comme une geek ayant possédé une guilde, adepte des RPG et de quelques MMO. Elle nous expliquera tout à l'heure ce que ce langage signifie. Son côté etc., je l'ai identifié en me promenant sur son site. Charlène est plus connue sous le nom d'Aileen, de la tanière de Kibane. C'est l'occasion pour elle, bien sûr, de partager ses pratiques, mais ce qu'elle retient surtout, ce sont les échanges que provoque son blog, échanges qui lui ont fait prendre conscience du nombre incroyable de PE, qui sont aussi parfois des personnes exceptionnelles. S'occuper de son site n'est pas la seule corde à son arc. Charlène écrit également autour des questions de pédagogie, de gestion de classe, d'autorité, de didactique. Je vous conseille d'ailleurs ses ouvrages. Un cadre serein dans sa classe, ça se construit, paru en 2020. Et c'est réussir en conjugaison CE1, CE2 et CM1, CM2, paru chez Retz. Charlène Schneider, bonjour.
Bonjour.
Ma première question sera très simple et je la pose désormais à tous mes invités. Est-ce que vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vouvoie ?
On peut se tutoyer.
Eh bien, ça nous amène tout de suite à ma deuxième question. Quel regard portes-tu sur ton enfance, Charlène ?
Eh bien, un regard pas très positif. Et à vrai dire, c'est plutôt une période que j'évite de trop regarder. J'ai grandi dans les quartiers, vraiment les quartiers, là où c'est pas toujours très joyeux. Et pourtant, la vie dans le quartier en elle-même me posait pas spécialement de problème. Je veux dire que on a parfois cette image de violence, de rapport de force, de vol. Tout ça, je l'ai pas trop vécu. J'ai pas ce souvenir-là. Mais par contre, dans ces quartiers-là, il y a plein de gens qui vivent chez eux des choses assez terribles. Et puis, moi, j'étais dans la moyenne, c'est-à-dire que j'ai peut-être pas vécu les pires choses, j'ai pas vécu les meilleures non plus. Et je pense que toute mon enfance vraiment est marquée par ce climat familial assez compliqué.
Prof, etc.
Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'élève ?
Je dirais que vraiment celui qui se détache le plus a eu lieu au collège en troisième. Il faut savoir qu'à partir du CM2, je suis partie dans une école collège-lycée privée sur bourse. Et du coup, on avait des super voyages. Et en l'occurrence, je me rappelle de ce voyage à Chamonix. Alors le principe, l'année de troisième, les professeurs faisaient en sorte qu'on ait bouclé le programme un ou deux mois à l'avance. Pour qu'ensuite on parte dans des révisions. Et justement ce voyage-là, il s'organisait avec le matin des révisions, que j'avais trouvé assez intéressante parce que finalement on refaisait tout le programme, par exemple en histoire, mais en condensé. Et ça permettait vraiment de voir les grandes lignes en fait, qui dirigent l'histoire, les grandes choses à remarquer. Donc ça, j'avais trouvé ça très appréciable. L'après-midi, on faisait du sport, avec tout ce que peut proposer Chamonix, du rafting, de l'escalade, etc. Et finalement, le meilleur moment, je crois, c'était à 17h à peu près, quand les classes étaient finies, si on peut dire, où on avait le droit de se promener dans Chamonix. Donc, bien sûr, on devait remplir un petit document disant qu'on était sorti du lieu où on se trouvait, mais on pouvait, des ados dans Chamonix. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir, mais juste cette petite liberté, cette confiance qu'on avait placée en nous, j'avais trouvé ça très, très agréable.
Prof, etc.
Alors, tu parlais tout à l'heure de la difficulté de grandir dans les quartiers dits sensibles, hein, qui existent à Strasbourg. On en entend parler chaque année, notamment au moment du Nouvel An, à propos des voitures incendiées. Alors, j'imagine que toi, adolescente, tu n'as pas participé à ces activités. Enfin, j'espère.
Non, j'ai pas brûlé de voiture.
Mais tu t'es construite comme adolescente dans cet environnement-là?
C'était assez compliqué parce que j'étais quelque part à ma place nulle part. C'est-à-dire que j'ai déménagé en fait au courant de mon année CM1. Donc je me suis retrouvée 6 mois dans une école, ce qui a été le temps dont j'ai bénéficié en fait pour me faire des amis dans le quartier. Et puis ensuite je suis partie donc dans cette école au centre-ville. Donc je prenais les transports en commun, tout ça. J'étais plus du tout avec les élèves du quartier. Et ça posait deux problèmes parce que forcément, moins on fréquente les gens, moins on évolue, en harmonie avec eux, si on peut dire ça comme ça. Donc j'évoluais moi dans un milieu qui n'était pas du tout celui des quartiers sur mon temps scolaire. Et finalement, voilà, je me suis un peu détachée de toutes les personnes qui vivaient là. J'avais pas forcément d'amis dans mon quartier. Donc, heureusement, avec l'adolescence, j'ai le droit de partir au centre-ville pour voir mes amis. Hein. Mais donc, effectivement, j'étais pas vraiment à ma place dans mon quartier. Et en même temps, j'étais pas vraiment à ma place non plus dans ce collège et dans ce lycée extrêmement bourgeois. C'est-à-dire que c'était pas un petit privé de campagne, ce que j'appelle parfois les faux privés, ou même des privés de ville qui sont quelque part là pour proposer une alternative. Mais c'était vraiment des gens qui évoluait dans un autre univers avec complètement d'autres conceptions du monde. À titre indicatif, au lycée, des filles recevant en argent de poche l'équivalent du salaire mensuel de ma mère. On est comme ça dans un monde qui n'a pas les mêmes valeurs. Et je crois que je m'en suis rendu compte vers le collège où je vivais, j'avais des amis quand même, mais plusieurs fois, je sentais qu'il y avait des choses qui clochaient un petit peu. Puis je me rappelle, il y avait ce grand chantier pour faire des trams dans ma rue et qui était complètement, enfin, qui était entièrement géré par des personnes d'origine étrangère, torse nu, qui travaillaient. Et je me rendais, et en voyant ça, j'ai eu l'impression de voir vraiment un autre monde. Et je me disais, mais oh là là, en fait, ce quartier, c'est presque le tiers-monde. Et là-bas, et je me disais, je suis entre les deux. Voilà, c'est sans regard péjoratif hein, sur le quartier, mais je me rends compte que même moi, finalement, d'avoir été dans cet univers très, très différent, ça m'avait fait déjà oublier certaines réalités, en fait, du monde dans lequel, pourtant, je vivais toutes mes heures en dehors de celle d'école.
Prof, etc.
Alors, on a parlé de ton enfance, de ton adolescence. En quoi ces périodes ont influencé le choix du métier de professeur que tu exerces aujourd'hui?
Alors, je ne pense pas que je sois professeur parce que j'ai vécu certaines choses ou d'autres. En tout cas pas lié à tout ce que je viens de dire, tout simplement hein, ça se passait bien à l'école, c'était un milieu qui me renvoyait une image assez positive de moi. On connaît un peu toutes ces histoires d'attachement, moi je cherchais un attachement et je le trouvais souvent chez les professeurs, chez les copains aussi, j'étais quand même globalement assez heureuse à l'école et donc forcément j'avais envie un petit peu d'y rester. Et en même temps, Il y avait cette forme de pression qui s'exerçait sur moi. Alors d'abord parce que j'étais dans ce lycée extrêmement bourgeois pour qui tout le monde visait de très grosses carrières qui rapportent beaucoup d'argent et que professeur, j'ai carrément des camarades en terminale qui ont dit mais quelle déchéance avec tout le mépris qui s'impose. Donc alors que pour moi c'était une superbe évolution sociale, mais j'étais juste bien, j'arrivais bien à expliquer à mes frères et sœurs, même s'ils n'avaient pas toujours envie que je fasse ma prof. Il y avait cette aisance-là, cette facilité-là. Et en même temps, donc, quelque chose que je rejetais un petit peu parce que je sentais bien qu'il y avait un enjeu un peu d'attachement, etc. Et que du coup, je me disais, il faut que j'explore d'autres pistes. Des pistes que j'ai finalement fini par éliminer. Hein. Alors, le stylisme, parce que j'aimais bien l'art plastique. Vivre à Paris, ça ne me tentait pas du tout, puis ça n'aurait pas été possible financièrement. Et je m'imaginais que mes études devaient forcément être là-bas. Hein. Je ne sais pas s'il existe d'autres écoles, mais je n'avais pas cherché plus loin. Je me suis tout de suite fermé cette porte. J'avais pensé à orthophoniste, mais ça revenait à faire des années, à faire des concours dans toute la France, dans l'espoir d'être dans les 15, 20, 30 sélectionnés. Il y en avait rarement plus. Et donc, tout ça me semblait assez impossible, hein, parce que financièrement, je n'avais absolument aucune aide, à part les bourses. Mais les bourses, il faut aller à la fac, il ne faut pas aller dans des écoles. Je connaissais mes limites, je savais qu'il me fallait des garanties. À l'époque, c'était un bac plus 3 dans lequel je me lançais. Ça me semblait réaliste. Et puis, j'aimais ça quand même. Hein. Il y avait quand même l'envie, mais une envie qui était basée sur des représentations complètement erronées du métier, finalement.
Alors, je le disais tout à l'heure dans ton portrait, tu as géré une guilde et tu as joué à des RPG et quelques MMO. Alors, j'avoue que quand j'ai pris connaissance de ces éléments, j'étais un peu perplexe. J'ai recherché un peu, mais est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, c'est marrant parce que j'ai pas du tout l'habitude d'expliquer ça. Un RPG, c'est, je ne sais pas si tu vois un petit peu le livre dont tu es le héros.
Oui.
C'est un peu la version encore plus poussée. Si tu as aussi entendu parler de jeux de rôle sur table, où tu sais, tu es un maître du jeu qui mène un peu une histoire, tu as un personnage et puis tu dois définir tes actions, etc. C'est un peu la version numérique de ça, hein, clairement.
Je suis un adepte de Stranger Things, donc je vois à peu près.
Donc j'ai commencé par le jeu de rôle façon Stranger Things. Alors j'étais pas dans un club. Mais ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est très difficile de réunir autant de monde. Hein. On l'a vu dans la dernière saison, parfois, des personnes ont d'autres projets. Et du coup, le RPG, c'était une alternative. J'avais commencé avec Baldur's Gate, donc vraiment des jeux où on crée un petit avatar, c'est notre héros, et puis il vit des choses, il remplit des quêtes, il aide des personnages ou pas. Enfin, voilà. Ça, c'est un peu le principe de base. Et le MMORPG, c'est la même chose en ligne et en multijoueur.
D'accord.
Alors souvent dans les MMO, le côté RPG histoire, enfin selon le RPG, il y a toujours une petite histoire, mais elle est plus ou moins développée. Selon les écoles, si c'est un MMO coréen, ça va plutôt être dans la répétition d'actions pour collecter des ressources, pour créer un équipement très fort et se battre. Et puis il y a des MMO justement qui sont peut-être plus orientés sur le scénario et l'histoire qu'on va vivre tous ensemble.
D'accord. Et gérer une guilde, alors, ça consiste en quoi ?
Au départ, ça consiste à dire, je crée ma guilde et on va réunir du monde.
D'accord.
Pour jouer ensemble, justement, sur des MMO.
D'accord.
Et donc, il faut établir des règles, il faut créer des événements pour que ça vive, un peu comme on gère une association qui va créer des événements. Mais la même chose, en ligne,
D'accord.
ça permet de jouer avec des gens partout dans le monde ou en France.
Ouais, donc il y a tout un côté presque administratif aussi de gestion de ces groupes.
Oui, c'est très 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 prenant en temps.
D'accord.
Prof, etc.
Ton site s'appelle La Tanière de Kibane. D'où vient ce nom et comment cette idée de créer un blog a-t-elle germé en toi ?
Alors, le nom, j'ai pas cherché très loin. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais en cycle 2, j'aimais bien avoir une petite mascotte. Et donc, chaque année, je créais une petite mascotte que je dessinais, que je mettais sur mes documents, etc. Et puis, ben, Kiban est la dernière en date, puisque depuis, je n'ai pas changé, étant donné que le blog a été publié. Donc, tous mes documents avaient cette mascotte, et du coup, je l'ai gardée. Et finalement, même avec les cycles 3, alors, il n'y a plus tout le côté, on invente des histoires, etc. Mais du coup, on l'a gardée, les élèves l'aiment bien. Donc voilà, je l'ai laissée. Et alors, l'idée de créer un blog, ça remonte à beaucoup plus vieux, parce que ben, justement, dans mon petit HLM, il n'y avait pas forcément grand-chose à faire. Et comme je disais, finalement, j'ai assez vite été coupée des gens du quartier. Donc, à mes heures perdues, j'avais un ordinateur, à peu près vers mes 10 ans, on a eu notre premier ordinateur avec une magnifique connexion Internet, le petit modem qui fait du bruit, tout ça. Et du coup, ben en m'ennuyant, tout simplement, j'ai été chercher comment on code un site web. Et donc, à l'époque, vraiment, juste à partir de code HTML, enfin, c'était assez laborieux à l'époque, j'ai créé des sites. Alors, au départ, juste pour mettre du texte, des images, des explications. Et puis, très rapidement, j'ai créé un site dans l'univers d'Harry Potter où je créais des cours. Et ensuite, les personnes, un peu façon jeu de rôle avant l'heure, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de jeu de rôle, les personnes étaient des élèves et remplissaient des exercices et faisaient des corrections, enfin des choses comme ça. Peut-être un petit précurseur de ma carrière. Mais donc, j'avais créé ça. Et puis, ben, après, les blogs sont apparus et c'était tellement plus facile. Donc là, après, je toujours plus ou moins eu des blogs, alors avec tout ce que ça comporte, hein, le Skyblog, Balance ton com, tout ça. J'ai fait aussi pendant l'adolescence. Et puis, j'avais arrêté avec la guilde parce que la guilde prenait trop de temps. Et puis finalement, le boulot, la maison, toutes ces choses-là, puis oh, ça revenait à gérer beaucoup de problèmes. J'ai arrêté de gérer une guilde. Je joue voilà, très rarement. Mais du coup, j'ai eu beaucoup de temps libre tout d'un coup. Donc, j'ai ressorti mes compétences et j'ai lancé le blog, sachant aussi que pendant mes études, donc je disais que j'étais partie pour un bac plus 3, mais en cours de route, ça s'est transformé en bac plus 5. Et je me suis retrouvée un petit peu juste niveau finance, sachant que voilà, bah, ma bourse m'était supprimée, mais je n'avais pas forcément d'autres moyens de me financer. Et donc, truc un peu paradoxal de l'époque, pour justifier qu'on demandait une bourse exceptionnelle, voilà, il fallait justifier donc qu'on était plus lié à nos parents, ce qui était le cas, mais du coup qu'on était indépendant financièrement. Et donc, il fallait justifier, je sais plus, d'une certaine somme dans l'année, un truc comme 10 000 euros. Hein. Donc, autant dire que je n'avais pas gagné 10 000 euros l'année d'avant, mais du coup, je me suis organisée autrement. J'ai créé une entreprise de web design. Et du coup, ben, pendant ma deuxième année de master, j'ai mené de front cette entreprise et ma dernière année d'études. Et avec des contrats que j'avais fait signer, du coup, j'ai pu faire valoir, ben, je ne les ai pas fait l'année dernière, mais l'année prochaine, je les aurai. Donc, je suis indépendante, s'il vous plaît, donnez-moi des sous. Voilà. Et donc j'avais quand même des compétences. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé tout le long.
Pas détailler tout ce qui foisonne dans ton site parce que c'est vraiment c'est très très varié, il y a beaucoup de choses, il y a des outils, il y a des articles de fond, enfin je laisse à chacun le plaisir pour ceux qui ne connaissent pas d'aller découvrir, mais j'aimerais savoir comment toi de ton côté tu construis ta ligne éditoriale dans ton blog. Qu'est-ce qui fait que tu vas décider d'écrire et de partager un article?
Il y a deux choses. Je dirais d'un côté l'idée que ça peut être utile. C'est-à-dire que clairement, il y a des choses que je partage pas parce que créer un article, c'est quand même assez long. En tout cas, la façon que j'ai de les faire, puisqu'il y a toujours des explications sur l'intention, sur le fond. Donc, il faut que ce soit utile. Voilà, donc j'évite de perdre du temps à publier un truc qui servirait pas à grand monde. La deuxième chose, c'est l'idée que ce que je publie est suffisamment abouti pour être partagé, sachant que quand même, si je m'écoutais, au départ, hein, avant de lancer le blog, j'étais plutôt du genre à utiliser une année jetée, d'où le changement de mascotte tous les ans qui ne me dérangeait pas. C'était jamais assez bien, donc hop, on élimine, on refera. Et du coup, le blog, c'était un peu l'idée d'essayer de lutter contre ça et de me dire, même si c'est pas parfait, parce que ça l'est jamais, propose et puis tu verras. Et c'est vrai qu'au début, je m'attendais pas forcément à grand-chose parce que voilà, c'était plus pour moi, hein, pour lancer tout ça et puis pour le plaisir d'avoir un site puisque j'aime créer des sites. Et finalement, ça m'a aidé vraiment à accepter en fait que ce ne soit pas parfait ni dans ma classe ni sur le blog.
Prof, etc.
Alors, il y a eu cet été des commentaires assez critiques, notamment sur Twitter, à propos des blogueurs ou des blogueuses qui publiaient dès les premiers jours de juillet leurs préparatifs pour la prochaine rentrée 2022-2023. Tu en as pensé quoi?
Eh ben, je fais partie du lot selon les années. Cette année, ça a été possible. Et les années où j'ai eu ma fille, les premières années, ça ne l'était pas. Avant, c'était le cas. Enfin, voilà. Le simple fait de commenter, à la limite, commenter, pourquoi pas, on a le droit de parler, on a le droit d'échanger. Mais dans ces commentaires, notamment sur Twitter, mais j'en ai eu aussi sur Facebook auquel j'ai dû un peu répondre, il y a cette idée de jugement, c'est-à-dire que oh ben non, moi je suis professeur, c'est bon, je travaille pour l'été, pour ce que je suis payé. De toute façon, on peut être efficace sans ça. Ces gens-là n'ont pas de vie, de toute façon, n'ont rien à faire. Bah, par exemple, dans mon cas, c'est juste que je pars en vacances fin août. Donc il vaut mieux que mon année soit prête avant parce que après j'arrive et pouf pouf, on a les réunions de pré-rentrée et c'est parti. Donc je pense que il y a ce côté déjà d'organisation qui est propre à chacun. Comme moi, on se lève à 6 h avec son enfant et qu'on fait de la route et qu'on rentre le soir, il est 18 h 30 passé, il faut donner à manger, etc. En fait, on n'a pas envie de bosser le soir. Le week-end, on a envie de souffler aussi un peu, justement parce qu'on a une vie et qu'on n'a pas envie de faire que du boulot pendant l'année. Et du coup, l'été, nous permet de nous avancer un petit peu. Et en dehors de ça, je pense quand même que ce métier, il est choisi par un certain nombre de personnes, dont moi. Parce qu'il permet d'être dans la créativité, qu'il permet d'être assez libre, de faire des choses jolies, de faire des choses comme on aime, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous parlent. Certes, il y a des professeurs qui font très bien leur métier sans ça, et il n'y a aucun problème là-dessus, hein. C'est d'ailleurs pour cela notamment qu'on écrit des méthodes, hein. Voilà, on leur fournit clé en main, ils n'ont plus qu'à s'approprier, réutiliser et ils ne perdent pas de temps avec tous ces artifices. Mais n'empêche que pour tous ces gens qui sont assez créatifs, c'est important en fait de s'investir de cette façon-là, en dehors de toute contrainte, pour le plaisir de créer quelque chose qui fera plaisir à nos élèves. Et je trouve ça assez sain finalement, tant que ça prend pas évidemment des proportions extrêmes et que ça crée pas des enjeux, voilà, des attentes vis-à-vis des élèves. Oh là là, ils ont même pas aimé avec tout le temps que j'ai passé. Voilà, faut le faire parce que ça nous fait plaisir, je pense. Et après, libre à chacun.
Prof, etc.
Alors, ta deuxième activité, c'est l'écriture d'ouvrages et d'outils pour les profs. Qu'est-ce qui t'a amené à produire ce type de contenu matérialisé par rapport à ce qu'on peut trouver d'immatériel sur ton site, sur ton blog?
Alors, c'est marrant parce que depuis toute petite, je veux écrire un livre. Bien sûr, pas un livre de conjugaison. Je détestais ça. Mais je voulais écrire un livre. J'ai eu des occasions manquées, assez jeune d'ailleurs. Et puis, une fois adulte, voilà, ma vie a fait son travail, a fait que je ne pense pas avoir assez de valeur pour écrire et assez de choses à dire. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui me traversait l'esprit. Et puis j'ai eu un tout petit souci alors pas vraiment de droit d'auteur, mais de concurrence déloyale avec Retz, où j'avais publié quelque chose qui ressemblait un peu trop à quelque chose qui existait chez eux. Donc on en a discuté, puis je l'ai retiré parce qu'effectivement, c'était assez cohérent. Et puis, pendant cet appel, voilà, l'éditrice que j'avais au téléphone m'a dit, mais par contre, on veut travailler avec vous. Donc, c'est assez drôle. Voilà, j'avais créé un petit quelque chose de pas, voilà, que j'aurais peut-être pas dû publier, une petite erreur de débutant, parce que le blog avait moins d'un an. Mais là, la porte était ouverte. Et en même temps, je me disais, ben oui, je veux bien écrire, mais quoi, enfin, j'ai pas grand chose à dire, rien que tout le monde ne sache déjà. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rappelé que quand même, j'avais une approche en conjugaison qui se démarquait un petit peu de ce que je voyais faire chez les collègues. Alors, j'avais pas non plus 15 années d'expérience, donc j'étais pas très sûre de moi. Donc, c'est passé en commission. Il y avait d'autres propositions en conjugaison et c'est la mienne qui est passée. Et en parallèle, parce qu'en fait, chez Retz, il y a eu un changement, justement, d'éditrice et d'équipe. Et du coup, il y a eu un délai entre le moment où j'ai dit ben, la conjugaison peut-être et la réponse. Et entre-temps, c'est ESF aussi qui est venu me voir en me disant que j'avais pas mal d'articles sur la gestion de classe et qu'ils voulaient lancer une nouvelle collection, qu'ils voulaient savoir ben, si déjà j'étais d'accord participer aux réflexions qui guideraient un petit peu cette collection et puis si j'étais d'accord d'écrire sur ce thème-là. Donc, je m'étais dit, bon, bah, arrête, c'est fichu, signons là-bas, hein, c'est super. J'ai quand même une autre opportunité. Je me suis retrouvée à écrire les deux en même temps, finalement. Donc, c'était ouais. Assez sport en plein confinement.
Prof, etc.
Alors, tu viens d'en parler. La problématique du climat de classe s'impose désormais comme un sujet majeur qui préoccupe l'intégralité, normalement, des enseignants, enfin, j'espère. Quel a été ton angle d'attaque sur ces questions dans ton livre ?
En fait, j'ai relu tout ce que j'avais écrit, parce que ça faisait quand même quelques temps, et j'ai essayé de rester connectée à cette jeune enseignante que j'étais, avec toutes les erreurs que j'ai pu commettre et tous les apprentissages que j'en ai tirés, les bons conseils qu'on m'a donnés, et de me dire, voilà, c'est quand j'ai été en galère, parce que j'ai vraiment eu des années très difficiles, notamment les deux premières.
Et, tu veux dire, dans ton métier de professeur des écoles ?
Oui, oui, d'accord. Oui. Tout de suite dans des milieux très, très compliqués. J'ai eu des conseils parfois pas du tout efficaces que j'ai suivis. Parfois, quelques conseils quand même qui ont été utiles. Et voilà, quand j'ai voulu écrire, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais face à ces classes-là, et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant que j'aille vers ces classes-là, quelles sont les réflexions qui m'auraient aidé. Et donc là, je me suis appuyée sur les réflexions que j'ai eues après coup et qui m'ont permis d'améliorer le climat de classe d'année en année. Mais voilà, vraiment dans cette optique-là, en me disant quand même que... il a été extrêmement difficile, ce livre à écrire. Je ne sais pas si j'en écrirai de plus difficile à l'avenir, parce que c'est un sujet qui crée énormément de débats, de culpabilité. Alors il y a l'institution hein, qui exige qu'on fasse preuve d'autorité et que notre classe fonctionne et qui nous parle de tout un tas de choses qu'on comprend pas forcément d'ailleurs dans les premières années. On a aussi tout ce mouvement de l'éducation positive, mais qui des fois est ultra culpabilisant, d'où les violences éducatives ordinaires. Tu as été violente, cet enfant sera traumatisé toute sa vie parce que tu lui as dit un mot pas gentil et très fort et humiliant, et qui sont assez affreux et qui font que des fois, bah, même moi encore, des fois je rentre chez moi, je me dis mais pourquoi je lui ai dit ça, cet enfant, c'est horrible ce que je viens de faire. Enfin, et c'est très très dur de sortir de là. Et on a la vieille école, il faut être autoritaire, on n'est pas là pour aimer les enfants. Enfin, donc j'étais là à marcher sur des œufs et à me dire voilà, qu'est-ce que je peux dire sans que mes propos soient déformés. Là, c'est mon expérience Twitter, j'avais un petit peu peur qu'on fasse dire des choses que je n'ai pas dit. Et le tout en étant aidant, en permettant à chacun de créer sa propre expérience de classe, parce que je n'ai pas prétention de faire mieux que les autres. Et je pense que on évolue, la meilleure façon d'évoluer, c'est de prendre ce qu'on a déjà et de le faire progresser. Et d'être encourageant, d'encourager aussi les professeurs à avoir un regard bienveillant sur eux-mêmes. Voilà. Ça fait beaucoup de choses.
Ouais, c'est vrai, mais enfin, là, dans ta réponse, on sent bien cette une sorte de double injonction contradictoire entre la bienveillance et puis imposer une certaine autorité. Et c'est
l'un des objets du premier chapitre. Du coup, comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire une autorité bienveillante, qu'est-ce que ça veut dire une autorité éducative, et est-ce que c'est du laxisme, est-ce que, ben voilà, donc tout ça est défini dans ce premier chapitre pour cadrer un petit peu la suite.
Quand est-ce que tu as ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ?
Alors, je pense que la dernière fois, c'était avec ma fille cet été. paresseux pour elle, je n'exposerai pas sa vie d'enfant. Mais elle a 4 ans, un très fort caractère. Elle parle extrêmement bien, avec beaucoup de vocabulaire, mais des fois, elle ne se rend pas compte qu'on n'a pas... Que voilà, qu'à son âge, on ne parle pas comme les adultes et qu'il y a des phrases qu'on n'a pas le droit de dire. Et des fois, elle me fait ça avec un regard désarmant et un naturel qui... Bon, voilà, des fois, j'aurais dû me fâcher, mais voilà, j'explose de rire. Et on rigole toutes les deux parce que voilà, c'est complètement surnaturel ce qui vient de se passer.
Prof, etc.
Peux-tu me citer un moment préféré de ta journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ?
Professionnel, ça va être difficile. C'est parce que c'est pas des moments qui se répètent tous les jours. Enfin voilà, je vois pas le temps passer à l'école et j'y suis pas malheureuse. Si ça pouvait commencer un tout petit peu plus tard dans la journée, ça m'irait bien aussi. mais voilà, je passe des bonnes journées, mais il y a pas mon moment préféré. Après voilà, il y a ces discussions informelles qu'on a avec les élèves, ces petits moments de complicité. Qui sont un petit peu drôles et qui font tout le charme de notre métier. Après, dans mon quotidien, c'est ce moment où ma fille s'endort. Alors oui, je l'aime beaucoup quand elle dort, mais c'est très compliqué de l'endormir. Où ma fille s'endort et je la regarde comme ça. Enfin, elle est endormie. Donc déjà, j'ai dû revenir. Hein, parce que... et voilà, tout est paisible et la journée se termine. Et j'ai passé une bonne journée. Voilà, c'est mon petit moment un petit peu calme que j'apprécie.
Prof, etc.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour toi ?
Je dirais j'en ai deux. Le partage. Mais pas le partage forcément au sens matériel. Le partage de connaissances, forcément, vu le métier. Mais aussi, je ne saurais pas comment le qualifier, mais quand on a des amis, voilà, et on va partager avec eux quelque chose de positif, quand on va, voilà, notre optimisme, on peut le partager, notre foi en l'avenir, enfin, toutes ces choses-là aussi, on peut les partager, les moments, on peut les partager, donc j'aime beaucoup le partage. Et la deuxième, mais là, on est presque au niveau pathologique pour moi, c'est l'honnêteté. Non, mais je vis très mal le mensonge. J'ai beaucoup de mal à le pardonner. Clairement, quand on me ment, je peux le prendre vraiment, vraiment très mal, même si c'était pour la personne pas grand-chose ou si c'était pour me protéger ou je ne sais quoi. Enfin, je n'aime vraiment pas le mensonge. Je considère que c'est beaucoup plus dur d'être honnête, notamment auprès de ceux qu'on aime, de nos amis, de nos enfants, de nos élèves, de nos collègues. Parfois, voilà, on a envie un petit peu de se draper de véritables mensonges ou de mensonges par omission ou par un peu illusion comme ça, parce que c'est un peu plus facile et en même temps, pour moi, c'est une forme de lâcheté. Alors, j'y vais, hein, j'ai grand mot, mais... Et je trouve presque qu'il y a un manque de respect envers l'intelligence des autres, finalement, à décider pour eux de ce qu'ils ont le droit de savoir ou de pas savoir, de ce qu'ils ont, ce qu'ils sont en mesure de supporter ou pas. Alors évidemment, je ne dis pas la vérité crue toujours et la plus dure qui soit à ma fille ou aux élèves. Hein. Des fois, on simplifie un petit peu la situation, mais sans mentir, mais juste parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent vraiment pas comprendre. J'ai des élèves qui m'interrogent sur la guerre en Israël. Je suis désolée, les enfants, mais là, je ne veux pas vous dire tout. Il y a trop de choses que vous verrez plus tard. Et je leur dis comme ça, hein, voilà, ouais. Donc j'ai quand même cette honnêteté-là. Mais voilà, le partage et l'honnêteté.
Prof, etc.
Quelles compétences ou capacités qui te rend bien des services dans ta vie te rend un peu fière?
Il y en a deux qui se combinent assez bien. J'arrive pas à choisir. Hein. Voilà, c'est pas mon truc, je voulais choisir. Forcément, mes capacités de compréhension et donc d'apprentissage qui sont extrêmement facilitées. Hein. J'ai pas eu une scolarité bien difficile. Et c'est vrai que souvent, ça me rend parfois insupportable et je m'excuse souvent auprès de mes collègues ou des formateurs, mais j'aime pas qu'on m'explique lentement. Je veux dire, explique-moi une fois, j'ai compris, c'est bon, on y va. Mais ça c'est très pratique, ça fait gagner beaucoup de temps, surtout dans notre métier. Alors je sais pas si y a de quoi être fière parce que je suis née comme ça, donc, mais en tout cas c'est très pratique. Et la deuxième, ce serait la créativité, parce que justement, du coup, il suffit qu'on me lance une phrase, un mot qui va tout de suite enclencher la machine, faire des liens avec plein de choses, et paf, j'ai des idées. Et c'est vrai que ça, c'est aussi très pratique dans mon métier, mais c'est aussi c'est très riche et stimulant dans la vie de tous les jours, d'où mon côté un peu bidouille. J'ai l'imprimante 3D, de la couture, du cartonnage. J'arrive à faire des meubles. Ça, j'attends d'avoir un peu plus de place. Mais voilà, c'est aussi très, très enrichissant au quotidien, pas que dans le métier.
Prof, etc.
Si tu pouvais te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, tu choisirais qui?
Si c'est que pour une journée.
Ouais.
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que je suis pas bien dans le culte des personnes. Ce qui fait que j'adore l'histoire notamment, mais les personnages, les grands personnages, les personnages que tout le monde connaît, ils m'intéressent moins que tout ce qui s'est fait autour, tout ce qui a existé dans cette période. Et du coup, je n'ai pas forcément de personnage en tête. Peut-être quelque chose qui serait complètement à l'opposé de ce qui me ressemble, un Napoléon par exemple. Mais juste pour essayer de le comprendre, être dans sa tête et se dire pourquoi il a pensé tout ça. Il est vraiment diamétralement opposé à tout ce qui me parle. Pourquoi? Comment les choses tournent dans sa tête pour qu'on en soit venu à ça? Ce serait peut-être ça, voilà, un personnage de ce type-là.
Comment définis-tu le succès?
C'est pas un mot qui me parle, parce que je m'en fiche du succès. Sans doute quelque chose comme je me définis un objectif et j'y arrive. Et après, l'objectif dépend de chacun et donc le succès dépendrait de chacun. C'est pas une vraie réponse, hein, forcément. mon propre succès, c'est d'être utile dans mon métier, hein, j'espère un jour être assez longtemps dans le même quartier pour pouvoir voir mes élèves adultes me dire qu'au moins un me dire voilà ce qu'il est devenu, pas forcément dire que c'est grâce à moi, mais au moins me dire voilà, j'ai participé à cette réussite parmi tant d'autres. Et à côté de ça, ben évidemment, le projet de toute ma vie, c'est mon enfant. donc j'attends de voir ce que l'avenir me réserve. Pas forcément de projet pour elle, mais si une fois adulte, elle peut me dire qu'elle a eu une enfance heureuse, qu'elle a pu faire ce qu'elle voulait faire, qu'elle est heureuse de sa vie, de son monde, de ce qu'elle est, j'aurais réussi.
Eh bien, on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais j'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les deux prochaines années?
Un peu de repos. Un peu de repos. Alors là, je suis dans une période transitoire où j'ai déménagé, je suis en appartement, je vais faire construire ma maison, le chantier devrait commencer bientôt. Donc je ne m'attends pas forcément à beaucoup de repos l'année prochaine, mais peut-être la deuxième année, voilà, pouvoir me poser, ne plus être dans la compta, ne plus être dans ce stress-là, être peut-être avoir un rythme un peu plus lent sur mes écritures, parce que, mine de rien, réussir en conjugaison, c'est, par exemple pour le CM, c'est 3 ans de test, mais c'est seulement 6 à 7 mois pour l'écrire, en même temps que la classe, donc c'est un peu fatigant. Donc, un peu de repos, un peu plus d'équilibre pour pouvoir profiter du quotidien.
Merci Charlène d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi.
Je mettrai le lien vers ton site en description de cet épisode. On y trouvera d'ailleurs facilement les références de tes livres. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider un petit peu, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous aussi, vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À très bientôt.